Cassis FM.
Bonjour Xavier Grisot.
Bonjour Fabrice.
Ravi de vous retrouver en cette rentrée de septembre. Ça y est, les publications reprennent chez Dijon L'Hebdo, nouveau numéro qui paraît ce mercredi 15 septembre. Avant d'évoquer le contenu du journal dans un instant, Xavier, tout d'abord, vous allez nous parler d'une petite innovation que vous lancez chez Dijon L'Hebdo.
Oui, alors avant toute chose, Fabrice, vous venez de le dire, mais même si honnêtement les vacances avaient du bon, cela me fait plaisir de vous retrouver à nouveau, moi aussi. Alors, Dijon L'Hebdo effectue, certes avec un peu de retard sur tous les élèves.
Oui, le 15 septembre, c'est une rentrée tardive.
Voilà. Il faut bien se reposer de l'année dernière, en fait.
Bien sûr.
Alors, pour cette rentrée, nous avons décidé, comme vous venez également de le préciser, d'innover. Notre journal est dorénavant disponible simplement en scannant avec un smartphone ou une tablette un QR code. Fabrice, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, sachant que le 12 octobre prochain, la radio FM passera aussi au numérique sur Dijon, et il faut vivre avec son temps. Donc, je conseille d'ailleurs à tous vos auditeurs de lire dans nos colonnes l'interview de votre directeur, Franck Pelou, pour tout savoir sur ce que la radio numérique va apporter sur la métropole, mais bien au-delà aussi sur la région.
Absolument. Et interview à retrouver en page 32 de ce numéro de Dijon L'Hebdo. Et le QR code dont vous parliez à l'instant, on le retrouve en page 22. Voilà.
Et on le retrouve également en page 1. Ce QR code aussi permet à ceux qui n'ont pas le temps de prendre le journal ou de le consulter dans sa version papier, de pouvoir scanner. Ils se retrouvent directement sur notre site internet et peuvent le lire ensuite, je ne vais pas dire au travail, mais disons pendant leurs loisirs ou à des moments où ils ont un petit peu plus de temps.
Ouais.
Donc voilà, Dijon L'Hebdo innove. Alors il y a le QR code, mais il y a aussi une nouvelle maquette. Nous avons décidé afin d'effectuer une rentrée, on l'espère, largement différente des deux années que nous venons de vivre avec le Covid. On a décidé de changer un petit peu de forme, mais rassurez-vous, le fond reste le même.
Entendu. Et concernant maintenant le fond, justement, les sujets que l'on évoque dans ce... Il y a des sujets très sérieux, des sujets un peu moins sérieux. Bon, sujet sérieux quand même, c'est le vélo,
oui.
Et ça fait la une du journal.
Alors vous dites que c'est un sujet sérieux parce que vous êtes un cycliste avec,
d'après
mes informations. Voilà.
Oui, les informations sont correctes.
Vous avez raison, vous avez bien vu le numéro, ce numéro de rentrée. Alors nos lecteurs retrouveront en une de ce numéro un titre qui leur rappellera un film que beaucoup ont vu et qui est retransmis très régulièrement, la Grande Évasion. J'imagine que vous vous souvenez de ce grand classique du 7e art.
Ouais, dans les années 70, je crois.
1963, exactement.
Ah, 63.
Au début des années 60.
Ouais.
Voilà, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, La Grande Évasion. À l'époque, l'affiche montrait Steve McQueen à moto. Les temps changent. 1963, 2021, je vous laisse faire le calcul.
Ouais.
C'est déjà une époque lointaine. Et aujourd'hui,
l'empreinte carbone.
Ouais, ouais. Voilà, l'empreinte carbone est dans le langage usuel. Ce n'était pas du tout le cas à l'époque où on n'avait pas encore vécu les crises du pétrole. Personne n'imaginait qu'un jour on allait parler même de l'économie de la décroissance. C'était des termes qui n'existaient pas. Alors aujourd'hui, en 2021, la grande évasion. Ou la petite évasion, en fonction des déplacements que l'on fait, elle se fait à vélo. À vélo, en effet, sachez, vous le savez parfaitement, que plus de 3,3 millions de Français utilisent quotidiennement le vélo, soit pour aller au travail, soit pour les loisirs, des loisirs courts, même pour des déplacements beaucoup plus longs. Nous sommes loin de l'époque de la moto. Alors pourquoi ce titre sur la Grande Évasion, pourquoi ce titre qui explique en substance qu'il y a eu un changement de braquet sur ce mode de déplacement doux, un tournant qui est important, et notamment depuis le premier confinement, c'est parce que la Bourgogne va accueillir son premier salon du vélo, ce sera le week-end prochain. Voilà, Vélo&Co, c'est un salon qui sera organisé par Dijon Congrès Expo à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Et paradoxalement, alors que le vélo a le vent en poupe depuis des années déjà, c'est le premier salon du genre qui sera organisé à Dijon.
Ouais. Un petit mot rapidement sur le programme. Quels exposants retrouvera sur ce salon, Xavier, en quelques mots?
Il y aura une cinquantaine d'exposants commerciaux, mais il y aura énormément de choses. Vous pourrez découvrir l'ensemble du programme dans une page que nous avons appelée, avec un jeu de mots évidemment qui renvoie au vélo les étapes incontournables, mais il y aura des démonstrations de BMX, des démonstrations de trial, et puis les gens pourront tester.
Le trial, vélos, c'est alors... une discipline d'équilibre, hein, voilà, d'équilibre sur un vélo particulier, et, pour la précision.
Il y aura également du vélo artistique à découvrir, c'est une discipline qui est peu connue. Donc il y aura des moments qui seront dédiés au show, mais il y aura aussi énormément d'essais possibles pour toutes les personnes qui visiteront, qui pourront essayer des vélos. Alors vous savez qu'il y a les vélos musculaires, vous montez le Ventoux sans aide de l'électricité, ouais. Mais aujourd'hui le vélo électrique est devenu très très tendance, les ventes augmentent, pour preuve, il est difficile de s'en procurer. Et ces vélos pourront être testés aussi in situ sur place au Palais des Congrès. Il y a énormément de choses. Les jeunes seront, même les tout petits, seront également les bienvenus, parce qu'ils pourront découvrir le vélo et notamment toutes les règles de sécurité.
Entendu. Bon, voilà pour le programme de ce salon, hein, qui aura lieu donc de vendredi à dimanche au Palais des Congrès, au Parc des Expos de Dijon. Xavier, autre sujet que vous évoquez dans le journal, bon, sujet plus dramatique cette fois-ci, c'est l'Afghanistan. Oui, évidemment, c'était l'une des grosses actualités de cet été, avec la prise de pouvoir de Kaboul et de l'Afghanistan par les talibans. C'était le 15 août et vous y revenez dans le journal, Xavier.
Oui, oui, oui. On a tous en tête les images des Afghans qui tentaient de grimper à bord, ouais, des avions qui décollaient de l'aéroport de Kaboul.
Certains tombaient de l'avion.
Bien sûr, c'était tragique. Alors, je vous recommande dans nos colonnes le témoignage d'Essak Balouch, que nous avons rencontré, cet Afghan qui était un des plus grands proches de Massoud, qui a combattu à ses côtés et qui vit en Côte d'Or depuis des décennies, nous décrypte la prise de pouvoir des talibans dans son pays. Il nous explique comment ils ont réussi à anticiper depuis de nombreux mois le départ programmé des Américains. Il nous a même confié, on l'a publié, une lettre d'un mollah qui annonce d'ores et déjà que tous les opposants au régime taliban, doivent être condamnés à mort. C'est un témoignage poignant et très inquiétant pour l'avenir de la population afghane, et je conseille à vos auditeurs et à nos lecteurs, bien sûr, de lire ce témoignage.
Un témoignage qui nous fait montrer concrètement que l'image moderne, entre guillemets, qu'ont essayé d'afficher les talibans au moment de leur prise de pouvoir ne serait qu'illusion.
Alors, Essak Balouch a encore beaucoup de membres de sa famille sur place, et notamment à Kaboul, donc il a des échos, je vais dire, quotidiens, par rapport à ce qui se passe. Il connaît bien la situation. Depuis 20 ans, il a énormément tenté d'aider à la fois sa famille, mais bien au-delà. Il a monté une association afin de recueillir de l'aide afin d'aider la population locale depuis plus de 20 ans. Et il est très inquiet, on titre d'ailleurs dans sa bouche « Mon cœur saigne ». Donc je pense que ça résume à peu près ce qu'il pense de ce qui se passe là-bas, malheureusement.
Témoignage donc à retrouver dans ce nouveau numéro de Dijon L'Hebdo. Dernier sujet que l'on peut évoquer, Xavier, bon, sujet plus léger à présent, sujet sur le sport. Le Stade Dijonais qui a débuté sa saison il y a quelques jours, défaite face à Albi, puis victoire ce week-end à Angoulême.
Oui. Oui, alors vous avez raison, le sujet est léger parce que le Stade Dijonais a réussi à inverser la tendance. La première croisade contre les Albigeois, excusez-moi pour ce jeu de mots un peu historique, dans la citadelle de Borrio ne s'est pas tout à fait passé comme ils l'espéraient. C'était un petit peu compliqué, même s'ils avaient affiché un bon sens du combat et puis quelques belles séquences de jeu. Donc ils ont perdu à Borrio pour le premier match, mais en revanche, ils se sont repris et de fort belle manière. Alors cette fois-ci en terrain hostile et pas n'importe où, à Soyeux, Angoulême.
Ouais.
Qui est tout de même l'un des clubs qui évoluait l'année dernière en Pro D2. Le 15 Charente, c'est dire à quel point la performance des Rouges et Bleus a été à la fois magnifique, et pour certains observateurs c'était une surprise. Pour le manager Benjamin Noirot, qui avait énormément travaillé à la fois le fait d'éviter de faire des maladresses et des erreurs, mais surtout de déplacer intelligemment le ballon, c'était une confirmation. Alors, les Rouges et Bleus se sont sublimés dans les 4 dernières minutes où ils ont planté, selon la formule utilisée par les amateurs de l'Ovalie, 2 essais. en moins de 4 minutes, et notamment suite à une mêlée renversée, le PAC Dijonais, je n'y étais pas, malheureusement, le PAC Dijonais aurait été magnifique. Donc, on termine par cette référence à la victoire du Stade afin de débuter l'année de fort belle manière. Et puis, pour eux, pour les rugbymen dijonnais, cela va changer parce que l'année dernière, le début en national avait été très difficile. Et là, l'avenir s'annonce beaucoup plus radieux.
C'est un tout autre départ et on souhaite que ça dure, qu'il y ait d'autres victoires. La prochaine, ce sera dimanche face à Bourgoin, Bourillot.
C'est ça, un gros morceau.
Un gros morceau. Bourgoin, ancien club de top 14. Merci beaucoup, Xavier. Bonne journée.
Cassis FM.